Non, j'avais une question technique sur les écoutes in situ, si vous utilisiez la géolocalisation ou si c'était des télé, enfin, ou si les auditeurs avaient téléchargé en fait les sons, enfin comment ça a marché?
Alors non, ça fait depuis 2011 que j'ai commencé, les technologies se développaient à ce niveau-là, mais j'ai tout de suite choisi en fait de... En fait, il y avait plusieurs raisons. Il y en a une déjà, c'est qu'en 2011, tout le monde n'a pas un smartphone, n'a pas ou n'a pas envie d'en avoir un. Deuxièmement, même aujourd'hui, tout le monde n'a pas un smartphone qui est avec des batteries pleines, avec un bon casque et avec un logiciel qui est téléchargé et qui fonctionne. Donc tout ça, ça nécessite quand même, depuis ces 10 dernières années, le fait qu'on n'est vraiment pas sûr de ce à quoi on arrive. D'autant qu'on ne sait pas la technologie que les gens ont, et surtout le casque. Donc moi, dès le début, ça a été de dire, je distribue le matériel, comme ça, tout le monde a le même matériel, et deux, je peux, moi, travailler vraiment en porosité. Je sais, le volume, je le propose, la technique, je la propose, donc je sais exactement comment le son va être mixé au réel. Si vous venez avec votre casque, votre téléphone, à moins qu'on connaisse tous la technologie exacte qui et donc faire une méthodologie qui dirait si vous avez un Samsung, machin chose, vous appuyez sur 5 barres et puis qu'est-ce que vous avez comme casque? Ah non, vous réduisez d'une barre et puis faire des tableaux. Non. Et c'est plus, pour moi, démocratique et abordable. Vous venez, vous n'avez aucun accès à la technologie, vous ne savez même pas comment ça fonctionne un smartphone ou vous avez le choix de ne pas en avoir. Et moi, je vous donne le matériel qui va être utilisé. Concernant la géolocalisation, c'est pareil. Moi, ça, enfin, voilà, c'est pas des technologies qui m'ont intéressé. On m'a invité à le faire. Je l'ai fait parfois pour rendre un projet pérenne, mais je préfère être là, guider le public ou le rendre autonome par du balisage. Mais c'est des technologies pour l'instant qui m'ont toujours un peu, m'ont toujours rendu un peu frileux quant à leurs usages, en fait, et leur partage. C'est des casques ouverts, des casques anti-bruit et un lecteur MP3 quand c'est sous bande et un récepteur radio quand c'est en temps réel.
Marc-Antoine?
Oui, avant d'altérer ou d'augmenter le son dans tes dispositifs, est-ce que tu proposes des écoutes comme Gilles Malatret le fait, des écoutes nues? Du paysage, peut-être avant, après, je sais pas.
Tout à fait. Donc, la plupart du temps, quand on fait des marches inouïes ou ce genre de dispositif, ou dans mes ateliers d'écoute, il y a toujours un temps d'écoute à oreille nue, un yoga des oreilles. La plupart du temps, j'introduis un yoga des oreilles entre 5 et 10 minutes, où vraiment on fait des asanas de l'écoute, on s'étire les oreilles à droite, à gauche, derrière, devant, prendre conscience de certains sons. Et puis après, on part marcher à oreille nue, donc vraiment de manière plus dynamique. On essaye de garder la qualité d'écoute qu'on a obtenue dans le yoga. Et on va pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure selon les lieux, écouter vraiment un parcours qui a été conçu aussi pour trouver des centres d'intérêt, des focus, des endroits où il y a tout à coup quelque chose d'un peu mis en perspective, des perspectives sonores à écouter. Et enfin, on arrive à un endroit où on va chausser les casques ouverts pour rentrer dans l'écoute augmentée.
Et je me doute que là, sur cette écoute nue, il y a quand même de ta part une narration quand même déjà autour du paysage, là où tu emmènes les gens. Est-ce que tu vas leur proposer d'écouter? Est-ce qu'il y a une histoire?
Alors, narration, non, jamais. Moi, j'appelle ça dramaturgie. Voilà. C'est, pour moi, il n'y a jamais de personnage, il n'y a jamais de début ni de fin. Enfin, il y a un début et une fin, mais c'est un commencement, quoi. C'est une ouverture. Mais non, pas de narration. S'il y a de la narration, c'est chacun qui l'écrit à travers la proposition qui est ouverte, quoi, en fait. Moi, je parle de dramaturgie parce que, comme vous allez voir et entendre, il y a vraiment des rythmes et des bascules et des tensions. Mais c'est vraiment de la dramaturgie. Il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. Moi-même, je ne le sais pas. Enfin, je sais les sons avec lesquels j'écris. Mais je sais que chacun va recomposer son propre paysage mental, qu'en fait.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Est-ce qu'il y a parfois des retours d'expérience? Parce qu'en fait, ça fait partie aussi de ce drame ou de cette dramaturgie de l'écoute. Voilà, donc je voulais juste savoir si parfois il y avait une sorte de dialogue.
Alors avec le public? Oui. Ah oui. Autant que faire se peut, une marge d'écoute se finit toujours où on se réincorpore dans un moment non spectaculaire, enfin, on sort de la proposition. Et à ce moment-là, j'invite toujours, pour autant que je ne suis pas pressé par la production, de refaire une autre marge d'écoute derrière ou quoi, de se poser, d'échanger, et voilà, et c'est à ce moment-là que j'obtiens des retours. On l'a fait autour des siestes sonores, comme c'est souvent des siestes individualisées, je déclenche pour chaque personne. Moi, je suis là, après, je fais un peu le pot de fleurs entre deux déclenchements, et donc les gens viennent me voir et me parlent, et c'est comme ça que j'ai des retours, vu que tout le temps, il y a ce rapport au public direct, j'ai vraiment un retour beaucoup plus... Ouais, enfin, par rapport à une œuvre qui est diffusée à la radio, on sait rarement, à part les professionnels, d'avoir des retours, ou sur son Facebook. Mais là, oui, souvent, très, 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 très souvent, il y a des retours qui sont directement avec le public. Quoi.
Pour moi, ça fait partie, en fait, de l'expérience. C'est une élucidation qui participe à l'expérience, et c'est presque une coécriture à ce moment-là.
Ouais, oui, c'est toujours très intéressant et enrichissant d'avoir ces retours.
Et donc, c'est un grand handicap pour l'écoute radiophonique. En tout cas, on ne boucle pas la boucle de l'écoute. Quand on diffuse à la radio, on a rarement cette occasion de boucler. Moi, j'ai été bluffé de voir un auteur s'affirmer avec une vision aussi puissante, puissamment articulée, poétique de la banalité, dramaturgie de l'inquiétude, des mots qui articulent peut-être un univers plus complexe que cela. Et je me demandais si l'ensemble des expériences que vous proposez, sieste, marche, etc., sont des occasions aussi de confronter les écoutants à l'ensemble des facettes, ou au moins à ces deux facettes de cette vision, la poétique de la banalité, à quelque chose de facile, parfois de fascinant, peut-être de terrifiant si on se fait attaquer par des fourmis guerrières, mais enfin quand même, bon, voilà. Mais confronter des gentils promeneurs à l'inquiétude du monde naturel, c'est peut-être pas très confortable non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est en option ou systématique? Enfin, comment est-ce que l'auteur vient bousculer l'écoutant?
Cette inquiétude, je la développe beaucoup plus dans l'écriture, on va dire, de live, de disque, que quand je fais une sieste sonore, bien que mes siestes sonores, vous allez l'entendre, en fait, la pièce que je vais vous proposer en écoute après a été diffusée à Besançon lors d'une sieste sonore. Et vous allez comprendre quel est mon rapport à la sieste, quoi, en fait. Pour ce qui concerne les marges d'écoute, il y a ce rapport aux espaces traversés. Donc c'est vrai que le contraste, il est fait aussi par les espaces. Quoi, en fait, si on est au bord d'une route et qu'on est déjà agressé par la situation, par la circulation, je ne vais pas en rajouter. Je peux très bien la moduler, la transformer en une rivière qui coule, et justement faire que ces 5 minutes qu'on a à passer au bord de l'avenue, tout à coup, on fasse que ça coule. Et c'est peut-être face à tout à coup, au moment où on est face à la fontaine ou quelque chose de plus relax, que tout à coup je vais retitiller. Voilà. Et je me suis posé des questions comme ça en allant dans des endroits naturels qui sont très pollués au niveau sonore. Ça m'est arrivé sur l'île de Ré, ça m'est arrivé dans le marais Poitevin, où on est dans des espaces naturels qui sont super beaux et qui sont le fleuron paysager et qui sont au niveau du paysage sonore complètement dégueulasses. Et je leur expliquais que pour moi, c'est comme si là, au milieu, il y avait des poubelles partout. En fait, de l'essence renversée, un bidon, un truc brûlé, etc. Et moi, c'est ce que j'entends. Et je me pose toujours la question de comment je mène les gens à entendre ça et si vraiment je leur rends service, quoi. Parce que quand j'arrive sur des sites comme ça, je me dis, si tout le monde avait mon oreille, les gens seraient tristes, quoi, en fait. Et voilà, j'ai pas envie de rendre spécifiquement les gens tristes, ni de les inquiéter plus que ça. J'aime leur réveiller leur écoute. Et les réveiller aussi, je sais pas, en tant que citoyen. Donc voilà, j'aime bien bousculer un peu l'écoute, mais il n'y a pas que ça. Cette inquiétude, elle existe, elle fait partie de mon esthétique, mais il y a aussi des moments de quiétude que j'aime briser.
Moi, ça me paraît très, très important politiquement de révéler les détritus sonores, parce qu'on est arrivé à des niveaux de perturbation absolument ahurissantes avec les portables, les gens qui parlent partout dans leurs portables, dans les transports en commun, le nombre de lieux où c'est insupportable du point de vue de l'oreille, les cafés, enfin, ça augmente énormément. Donc je trouve ce travail sur l'acuité et ce que tu viens de dire, là, moi, au contraire, je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'arriver à faire entendre ce qu'on est en train de vivre collectivement dans tous les lieux collectifs. Ça me paraît vraiment un combat à mener.
Oui, moi je me demandais par rapport à cette pratique de sieste sonore, à quel point est-ce que tu prenais en compte l'endormissement et la possibilité de s'endormir et du rapport au sommeil et à une écoute qui serait plus vraiment consciente, mais voilà, les sons qu'on entend au moment de sombrer dans le sommeil.
Mais en fait, le rapport à cette sieste, en tant que compositeur, a toujours été de ne pas laisser les gens sombrer. Alors j'en retrouve, surtout sur Élémentaire, c'est une sieste sonore composée à partir des sons des quatre éléments. Normalement, j'ai mis un certain nombre de balises qui sont comme des coups de semonce. Mais il y a des gens, moi quand j'étais plus jeune, j'arrivais à m'endormir avec du death metal. Donc je comprends que des gens puissent s'endormir, en même temps ce n'est pas le but. Après, il y a vraiment des moments où on part dans une certaine paix, les choses s'apaisent, et on rentre vraiment dans des qualités d'écoute longues et qui bruissent, etc. Mais pour moi, c'est vraiment d'arriver pile poil au moment où tout à coup, boum, c'est fini, quoi. Là, un coup de volet, une bagnole qui passe, un coup de fusil, quelque chose qui va secouer, dire « Oh, on n'est pas là pour dormir ».
Pourquoi appeler ça des siestes ?
C'était plus le dispositif, le fait d'être semi-allongé sur les transats. Voilà, c'est vrai que pour Amazonas Phonosynthesis, qu'on va écouter, qu'il faudrait qu'on écoute maintenant, j'ai trouvé les limites, en fait. Je commençais à repenser à cinéma pour l'oreille, cinéma aveugle, etc., qui étaient des choses que j'ai fait il y a très, très longtemps. Et de reprendre ce thème-là, parce que peut-être c'était plus juste de dire ça pour ne pas vendre quelque chose. Moi, sur les siestes sonores, oui, quand on parle des retours, j'ai toujours une ou deux personnes par sieste qui viennent me voir en disant « Mais vous parlez d'une sieste sonore sur les sons des quatre éléments, et je mets le casque et je suis au bord d'une autoroute, quoi. » Bah oui, mais je n'allais pas vous dire...
Cauchemar sonore.
Voilà. Et je leur dis par contraste, quand vous allez voir un film qui se passe par exemple dans la jungle amazonienne, etc., vous ne vous posez pas la question pendant une demi-heure, on est à New York et que justement l'auteur est en train de faire le contraste en montrant la vie urbaine, bruyante, je ne sais quoi. Et après, on va partir en Amazonie et tout le monde a oublié ce temps-là. En fait, c'est un peu le même mode où tout à coup on va par contraste et aussi par un contraste qui est transfiguré aussi, c'est-à-dire que j'amène à l'auditeur à concevoir que si on écoute l'autoroute dans la voiture bien capitonnée, le son de la mobylette et le son de l'autoroute qui passe en dehors est très beau et très doux. Alors qu'après, on va écouter des sons de la nature, d'animaux, qui vont être hyper agressifs. Et c'est sous couvert que l'un, c'est une bagnole et que l'autre, c'est un cucuit, que tout à coup, le cucuit, il est sympa et il est beau, alors que la bagnole, elle est trop laide. Non, mon truc, c'est de dire, dès le début, vous pensez que c'est des sons dégueulasses, hein, des sons moches par rapport aux beaux documentaires et aux beaux sons et à la belle radio. C'est du moche son, mais écoute comment il est enregistré ou quoi, en fait, il est beau. Et après, ces beaux oiseaux ou quoi viennent te claquer dans les oreilles et ils sont pas sympathiques, quoi.
Et si on écoutait ?